Ô Dieu, toi qui es notre Père en Jésus-Christ, nous voudrions passer ces quelques instants encore de cette journée sous ton regard et dans le sentiment profond de ta présence. Nous voudrions nous laisser pénétrer par les promesses de ta parole. Nous voudrions entendre Jésus nous dire lui-même ce qu'il veut de nous, ce qu'il a l'intention de faire pour nous. Et nous te demandons que ta parole puisse nous préparer pour ce grand événement qui sera notre rencontre sur les nuées du ciel. Tu viendras toi-même à notre rencontre pour nous accueillir. Et devant toi s'ouvriront alors les portails éternels où nous pourrons entrer avec tous nos bien-aimés, tous les morts ressuscités et se revoir sur les nuées du ciel, nous le savons, sera merveilleux. Et déjà à ce moment-là, nous pourrons t'adorer pour toutes les dispensations que tu as eues, qui nous ont fait souffrir sur la terre, mais nous comprendrons le pourquoi de toutes choses, et alors nous adorerons. Et c'est pourquoi, puisque nous savons qu'un jour nous adorerons pour tout ce qui nous a brisé, pour tout ce qui nous a déchiré, que nous ne voulons pas attendre la révélation de ce pourquoi, dans la foi, nous voulons te bénir et te rendre grâce pour toutes les épreuves que tu as permis, parce que si tu les as permis, c'est que tu voulais encore, par le moyen des uns et des autres, rendre témoignage à ta grâce, et que les tiens sont des hommes et des femmes qui t'aiment, non pas parce que tout va bien pour eux, non pas parce que tu les comptes de bénédictions extérieures, mais parce qu'ils te connaissent et qu'ils te font confiance, même si leurs cœurs sont déchirés. Donne-nous d'être dans la louange ce soir et bénis-nous par ta parole en Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Eh bien oui, mes amis, une fois encore, nous terminons une journée de Pentecôte. C'est très rare que je sois au Canada à Pentecôte. J'ai presque toujours une mission quelconque dans un autre pays de ce monde. Quelquefois c'est en Israël, d'autres fois c'est en Europe. C'est une journée qui, dans les vieux pays en particulier, est l'occasion de grands rassemblements de chrétiens qui viennent de différents pays pour ces 3 jours, et l'on les consacre à l'étude de l'Écriture et tout particulièrement à ce don du Saint-Esprit qui a été l'accomplissement de la promesse du Père et que le Seigneur a envoyé 10 jours après avoir quitté les cieux. Nous avons parlé hier soir de ce premier grand événement qui commençait l'accomplissement des promesses de Dieu faites à l'homme depuis la chute. Et nous avons souligné l'incarnation, la venue de Jésus sur la terre. Dieu qui se fait homme pour que nous ne soyons pas saints. Dieu qui vient nous révéler ses pensées. Il les avait révélées au Sinaï à un peuple, mais il a voulu faire plus. Il a voulu nous montrer comment toutes ces pensées de Dieu qui ont été exprimées en Sinaï, un homme pouvait les vivre. Et en Jésus, vous voyez, non plus la loi écrite sur des tables de pierre que vous lisez, mais vous voyez la loi de Dieu vécue par un homme, dans un homme de chair, comme nous, à part le péché, puisqu'il était sans péché, mais c'est dans la vie de Jésus qu'on peut voir la loi de Dieu vraiment pratiquée. La bonté de Dieu a été manifestée d'une façon entière en Jésus-Christ. De sorte que quand vous voulez connaître la volonté de Dieu, à qui devez-vous penser? À Jésus-Christ. Et tout de suite, vous avez une indication. Tout de suite, en vous, vous sentez qu'il y a des choses que Jésus ne ferait pas, puis qu'il y a des choses qu'il ferait. Et ça vous donne une certitude que, non, c'est pas le chemin pour moi, cela. Parce que je suis en Jésus. Je suis de Jésus. Et cela, avant ma conversion, j'aurais pu le faire, sans conscience de péché même. Mais maintenant, je suis en lui, la grâce m'enseigne. Et alors, par amour pour le Seigneur, il y a des choses que nous ne ferons plus, mais il y a d'autres choses que nous ferons. Nous accomplirons les œuvres que lui a préparées d'avance, nous les pratiquions. Comme Jésus disait toujours que les œuvres qu'il faisait, c'était les œuvres qu'il avait vu faire par le Père. C'est ce que le Père faisait, c'est cela qu'il faisait. Eh bien, nous aussi, nous pouvons aussi nous dire ce que Jésus faisait, nous le ferons. Et nous le pouvons, non pas parce que nous avons la force en nous, dans notre chair, nous ne l'avons pas, mais parce que justement, à la Pentecôte, le Seigneur nous a envoyé son esprit et cette puissance dont nous avons besoin pour le témoignage, et qu'en dehors de son esprit, nous ne pouvons pas connaître. Sans le Saint-Esprit, nous pouvons nous dire chrétiens, mais nous sommes alors les plus misérables de tous les hommes. Parce que nous aurons toujours mauvaise conscience, parce que nous sentirons toujours que nous ne pouvons pas, que nous ne sommes pas capables. Mais quand le Saint-Esprit agit en nous, et qu'il y a quelque chose de bon qui se produit dans nos vies, on ne s'attribue pas le bien. À qui est-ce qu'on l'attribue? Au Seigneur. Toute gloire, on la donne immédiatement au Seigneur parce qu'on sait que c'est pas avec notre propre force qu'on a pu faire cela. C'est vraiment avec la force du Seigneur et on loue le Seigneur qui nous a donné la force d'accomplir la volonté du Père qui est dans les cieux. Comme lui a dit, mais ma nourriture, moi, ce qui fait ma vie, ce qui fait ma force, c'est de faire la volonté de Dieu. Tandis que bien souvent pour nous, on dit, mais faire la volonté de Dieu, mais c'est quelque chose d'impossible. C'est quelque chose qui nous rebute. Mais Jésus, ça ne le rebutait pas de faire la volonté de son Père. Il disait, c'est mon plaisir de faire ta volonté. C'est ce qui fait ma joie, c'est ce qui fait mon bonheur. Mais vous le comprenez bien, pour que nous puissions dire une chose pareille, il faut qu'on soit né de nous. Il faut qu'on soit passé vraiment par la nouvelle naissance, une naissance d'eau et d'esprit. Cette naissance d'eau, c'est cette naissance qui vient de la parole de Dieu. On a entendu la parole de Dieu, on l'a lu. La parole de Dieu nous a montré que notre cœur était incurable, désespérément malin, que nous ne pouvions pas glorifier Dieu. Mais, en même temps, cette parole nous a montré Jésus. Et cette parole nous a dit que si nous recevions Jésus dans notre vie, si nous l'acceptions dans notre cœur, c'est lui en nous et qui vivrait la volonté de son Père. Comme la volonté de Dieu a été vécue en Jésus de Nazareth, la volonté de Dieu maintenant, elle est vécue en chacun de nous, par Jésus. Mais qui a besoin de nos corps. Et c'est pourquoi il nous demande nos corps. Un jour, nous avons donné nos péchés à Jésus. Ça, c'est une chose. Hein, et il les a pris, il les a expiés. Mais maintenant, ce que Jésus nous demande, c'est nos corps. Livrez, chapitre 12 des Romains, livrez vos corps à Dieu pour que le Seigneur puisse, dans nos corps de chair, dans nos corps mortels, manifester sa volonté. C'est par nous que Dieu, en quelque sorte, continue de manifester son incarnation sur la terre. Un chrétien, c'est un homme en qui Dieu habite. Vous devez prendre conscience, et moi avec vous ce soir, que nous sommes habités. Alors, je ne vais pas allonger sur cette question de Pentecôte. Nous avons vu que après Pâques, il y a eu l'ascension et il y a eu l'accomplissement de cette promesse qui s'est réalisée quand les disciples étaient assemblés. Mais je voudrais que nous essayions de nous mettre maintenant dans la peau de ces disciples. Pendant ces 10 jours, après avoir vu le Seigneur s'en aller au ciel, qu'est-ce qui devait les préoccuper? À quoi devaient-ils penser? Et je voudrais tout de suite vous remettre dans l'atmosphère de la dernière, du dernier souper du Seigneur avant la croix, quand il a institué la scène que nous avons pu prendre ensemble ce matin. C'était donc dans la chambre haute, et je voudrais vous lire quelques versets au chapitre 14, je vous les ai cités déjà par cœur, mais quand il était avec les siens au souper, où il a institué la scène, il leur a dit ceci: que votre cœur ne se trouble point. Vous croyez en Dieu, et croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Donc, ça, c'est très clair que le Seigneur a donné comme consolation suprême aux siens avant d'y quitter l'assurance qu'il s'en allait pas pour toujours, et il leur a même dit ce qu'il allait faire là où il retournait. Je vais dans la maison de mon Père vous préparer une place, et dans cette maison, il y a plusieurs demeures. Oui, il y a de la place pour tous. Et dans le chapitre 17, alors de Jean, quelques heures après avoir fait cette promesse, je reviendrai et vous prendrai auprès de moi, on voit Jésus à Gethsémané dans ce jardin, après avoir passé le torrent du Cédron, Jésus qui adresse la prière à son Père et qui lui dit, en particulier avant l'autre prière de Gethsémané, qui est vraiment la prière de l'agonie, mais d'abord il dit ceci au chapitre 17 de Jean, verset 20. Et alors vous êtes tout de suite concernés dans ce 18 mai 86. Jésus a prié pour les disciples, il dit à son Père, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Qui sont les gens qui ont cru en Jésus par les paroles des apôtres? En particulier, nous autres. Nous sommes dans cette catégorie de gens pour lesquels Jésus a vraiment prié. Vous pouvez vous dire que quand Jésus priait en disant, ce n'est pas seulement pour ces apôtres qui sont là autour de moi que je prie, mais c'est pour tous ceux qui au cours des âges croiront en moi par leurs paroles. Et si nous avons cru, c'est à cause de l'évangile qui nous a été annoncé et qui nous a été apporté par la parole de Dieu. Quelle est la première femme en Europe qui a été convertie à l'évangile? Qui? Lydie. C'est une marchande. Lydie, marchande de peau, de la ville de Philippe, mais qui était originaire de Thyatire. Un jour de sabbat, elle s'était réunie avec quelques femmes, puis Paul et Sylla cherchaient un lieu pour avoir un peu de communion, puis ils sont allés trouver ces femmes juives qui se réunissaient au bord de la rivière, parce qu'il y avait pas une synagogue, là ils étaient pas assez nombreux pour avoir un édifice. Et c'est comme ça que l'Évangile est entré en Europe. Et une femme nommée Lydie a été attentive aux choses que Paul disait, elle a ouvert son cœur, elle a reçu le Seigneur, puis après elle dit tout de suite à l'apôtre Paul, mais si vous m'en jugez digne, ma maison, elle est à vous. Et c'est ça qui a été le premier local, si vous voulez, où le Seigneur a été honoré en Europe par une femme qui était attentive aux choses que Paul disait et qui a cru. Alors, Jésus avait aussi prié pour Lydie, mais non seulement pour Lydie, mais pour tous ceux, donc pour nous, en 1986, qui croiraient en lui par ses paroles. Et puis, qu'est-ce qu'il dit à son Père, qui nous concerne aussi? Verset 22. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Et ça, c'est aussi pour vous. La gloire que le Père a donnée au Fils, vous devez prendre conscience que Jésus vous l'a donnée afin qu'il soit un comme nous, nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Afin qu'il soit parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Est-ce que ça ne nous dit rien? À nous? Est-ce que nous allons prendre conscience dans cette soirée de Pentecôte que Jésus a dit, il ne peut pas nous mentir, hein, il a dit à son Père, ceux pour qui je prie, ceux qui croiront en moi par leurs paroles, tu les aimes comme tu m'aimes. Et je voudrais qu'en quittant ce camp, nos amis qui repartent puissent partir avec cette certitude. Le Seigneur nous a dit qu'il nous aimait, que Dieu nous aimait comme son Fils était aimé. Ça, c'est une nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Vous êtes aimés et nous sommes aimés, nous qui restons ici. Jésus a dit cela à son Père. Père, tu les as aimés comme tu m'as aimé. Évidemment, vous pouvez vous demander, mais alors comment est-ce que fait que Dieu, qui aimait tellement son Fils, l'ait laissé mourir sur la croix, puisqu'il aimait son Fils? Et pourquoi est-ce qu'il l'a laissé mourir? Pour nous sauver, lui. C'est ça. C'était là son but de Dieu. Mais maintenant alors, pourquoi est-ce qu'il permet que nous soyons éprouvés, Dieu? Mais c'est pour sauver d'autres âmes. Ça, croyez-le. Soyez certains maintenant que vous connaissez que Dieu qui aimait tellement son Fils a accepté qu'il meure pour nous. Et maintenant, on connaît le pourquoi, c'est pour que nous soyons sauvés. Mais puisque nous sommes sauvés, nous sommes prêts aussi à tout perdre pour que d'autres âmes soient sauvées. C'est ça, l'esprit vraiment chrétien. Nous avons communion avec le Seigneur. Mais ce qui doit vous rester, c'est que vous êtes aimés du Père comme Jésus l'était. Alors vous pouvez pas douter de l'amour de Dieu. On peut passer par n'importe quelle épreuve, mais il y a une chose qu'on ne doit plus jamais mettre en question, c'est l'amour de Dieu. Il y a une chose qu'on ne doit plus jamais mettre en question, c'est la justice de Dieu. Dire, comment si Dieu était juste, c'est pas possible qu'il arriverait ça. Dieu est juste. Dieu est bon, Dieu est amour. Moi, je n'y comprends rien, mais je me courbe et je lui fais confiance. Et vous savez, il y a, quand on doit passer par de grandes épreuves, il y a dans cette attitude un bonheur qui n'est pas de la terre. Un bonheur qui ne peut pas être compris par le mot. C'est un bonheur qui est fait. Je ne pense pas qu'on puisse être plus proche du Seigneur. C'est dans l'épreuve. C'est vraiment dans l'épreuve qu'on est le plus proche. Regardez les trois jeunes Hébreux, hein, vous vous souvenez de l'histoire biblique, hein, qui n'ont pas voulu se courber devant la statue. Ben, le Seigneur était avec eux. Quand ils étaient là, au milieu de cette foule de païens qui se prosternaient au son de toutes les musiques possibles devant la statue de Nebuchadnezzar, le Seigneur était avec eux. Mais quand est-ce que le Seigneur a été le plus proche d'eux? C'est dans la fournaise. Parce que c'est dans la fournaise qu'on a vu le Nebuchadnezzar. Il n'a pas vu le Seigneur aux côtés des trois, tant qu'il n'était pas dans la fournaise. Quand est-ce qu'il a vu le Seigneur avec les trois? C'est quand ils étaient dans la fournaise. Parce que quand ils étaient là, les trois, ils les voyaient seulement les trois, puis disaient, qui pourra vous délivrer? Est-ce que votre Dieu pourrait vous délivrer de ma main? Hein? Et ils ne voyaient que trois pauvres hommes, les hommes qui avaient été, qui avaient eu sa confiance, mais il était outré de voir qu'il ne se prosternait pas. Donc, il n'a pas vu le quatrième quand il témoignait. Mais, il a vu le quatrième quand ils ont été dans la foule. Et voyez-vous, ça, je crois que le Seigneur permet que nous passions par certaines fournaises pour que le monde soit obligé de dire, ben, vraiment, c'est la foi. Cette attitude dans l'épreuve, c'est la foi. Et ça, c'est un témoignage. Et Dieu nous permet de passer des fois par des épreuves de ce genre. Mais croyez-le, vous êtes aimés, c'est Jésus qui l'a dit. Et Jésus a dit cette prière la veille de sa mort. Vous savez, quand on va mourir, on ne dit pas des paroles légères, surtout quand on le sait, on va mourir. Les paroles d'un mourant, elles ont d'importance. Et c'est une de ces paroles-là que je vous laisse maintenant, verset 24, puisque on a dit qu'on parlerait du retour du Seigneur. Qu'est-ce qu'il a dit? Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation. Et alors, si vous vous souvenez que Jésus a dit, Père, tu les as aimés comme tu m'as aimé, depuis quand sommes-nous aimés, nous autres? D'après ce verset qu'on vient de lire. Depuis l'éternité. Dès la fondation du monde. Père, tu m'as aimé dès la fondation du monde. Puis avant, on a lu, tu les as aimés comme tu m'as aimé. Alors, si le Père a aimé son Fils dès avant la fondation du monde, et que nous sommes aimés comme il aimait son Fils, nous aussi, nous sommes aimés dès avant la fondation du monde. C'est quelque chose de merveilleux. Ça dépend pas de nous. Ça dépend de cette décision de Dieu qui a trouvé dans son cœur. Avant l'existence du monde, avant que nous soyons conçus dans le sein maternel, nous avons eu une place dans la pensée de Dieu. Alors tout ça, vous le comprenez, ça nous dépasse. Et c'est ça l'adoration. C'est ce dépassement, quand on s'arrête à cela, quand on pense à cela, quand on est recueilli devant la table du Seigneur et qu'on se souvient de lui, on se dit, incroyable. Et c'est de se dire, mais c'est incroyable, comme on y croit quand même, alors, qu'est-ce qu'on fait? On se prosterne. Et on attend. Et on lui dit, qu'est-ce que nous reconnaissons de nous? Voyez-vous, il faut que dans mon cul, vous puissiez ouvrir la bouche. Ne vous occupez personne, mais vous vous occupez du Seigneur. Et alors la louange dépendra. La louange éclatera. Et c'est cela que je demande au Seigneur. Vous ne puissiez pas vous dire, ben, qu'est-ce que je vais dire, est-ce que je pourrais construire ma phrase? C'est pas construire une phrase, prier. C'est lui dire, Seigneur, tu es là. Et nous sommes là. Je te salue. Nous te bénissons. Simplement quelques mots. Il mettra ses mots sur vos lèvres. Il est dit que dans notre méditation, pendant que nous sommes dans le silence, le feu s'allume dans notre cœur, et puis j'ai parlé de ma langue. C'est comme quelque chose qui monte du cœur, ça se trouve sur nos lèvres. C'est pas un travail de la tête, la prière d'adoration, c'est le débordement. La coupe qui déborde, hein, vous remplissez le vase tout d'un coup. C'est trop plein.
Voilà la louange. Voilà notre Seigneur de gloire. Il a prié pour nous, puis il a dit, Père, je veux. On a souvent souligné que c'est le seul je veux que Jésus ait dit. Dans toute sa carrière. Il n'y a qu'une fois qu'il a dit je veux. Et pour qui l'a-t-il dit? Bon. Il l'a dit. Père, je veux. Et qu'est-ce qu'il a voulu? Que là où il serait, nous soyons aussi avec. Alors, vous comprenez, les disciples, le jour de la Pentecôte, dans ces 10 jours, disons, qui ont préparé la Pentecôte, ils devaient se souvenir de toutes ces paroles. Ils venaient de leur dire. 40 jours avant, ils avaient entendu ces paroles. Alors, ces paroles devenaient les dernières paroles de Jésus avant sa mort, puis alors les paroles qu'il a dites une fois ressuscité. Et puis, ils avaient cette vision de Jésus qui était monté, là, auprès de son Père. Et même, alors qu'ils regardaient fixement vers le ciel, en se souvenant, il s'en va, mais il nous a dit, je reviendrai. Quand ils l'ont vu partir, ils ont pensé qu'il reviendra. Quand ils l'ont vu partir, ils ont pensé à quoi? À son retour. Et ils sont mis à espérer son retour. Comme David, quand il a perdu son fils, avant qu'il perde son fils, il jeûnait, il refusait donc de manger, il était couché par terre, puis quand on lui dit que son fils est mort, alors le voilà qui se relève, qui se lave et qui mange. Alors, les serviteurs lui disent, mais qu'est-ce qui t'arrive? Avant que ton fils meure, tu ne voulais pas manger, puis maintenant qu'il est mort, tu te mets à manger. Puis qu'est-ce qu'il répond? Vous vous souvenez de cela? Qu'est-ce que David répond? Il dit, tant qu'il était en vie, je jeûnais parce que j'espérais encore que Dieu le guérirait. Mais maintenant qu'il est mort, il dit, eh bien, si je mange, c'est parce que ce n'est pas à lui qui reviendra vers moi, mais c'est moi qui irai vers lui. C'est tout autre chose. C'est moi qui irai vers lui. Alors, voyez-vous, nous maintenant, notre tristesse serait fausse si nous pensions qu'ils reviendront vers nous. C'est pas comme ça qu'on doit voir les choses. C'est nous qui allons vers eux. Et puis eux-mêmes, si on pouvait leur dire, est-ce que vous voudriez revenir ici? Ils ne voudraient pas. Vous pouvez être sûr qu'il ne voudrait pas. Et ça, je le sais, le Seigneur me l'a dit dans un cas très précis. Ceux qui sont partis ne voudraient pas. Vous pouvez être sûr. Alors, si nous les aimons, soyons heureux du bonheur de ceux qui nous ont devancé. On a eu des parents qu'on a chéris, on a eu des êtres avec lesquels on a dû vivre, et puis ils sont partis. Eh bien, ils sont heureux. David l'a su, et puis il a pensé, c'est moi qui dois me préparer à les revoir. C'est ça, nous préparer à les revoir. Mais à revoir des personnes qui ont déjà fait une expérience que nous n'avons pas encore fait. Alors ça change tout pour nous. Mais quand ils ont vu donc Jésus partir, ils ont pensé qu'il reviendra. Mais ils avaient les yeux fixés vers le ciel. Et tout à coup, ils voient deux anges, deux hommes vêtus de blanc qui sont là, dans le chapitre 1er des Actes, qui leur dit, mais hommes galiléens, pourquoi restez-vous là, les yeux fixés vers le ciel? Ce Jésus que vous avez vu partir au ciel, que vous avez vu s'en aller au ciel, il reviendra. Hein? C'est la première parole qu'ils ont entendue une fois que le Seigneur est parti. Deux hommes, deux témoins, qui viennent d'en haut, qui leur disent, ce Jésus que vous avez vu s'en aller, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. Alors, ne vous laissez pas mettre un doute dans votre cœur par ces gens qui disent, mais Jésus n'a jamais vraiment promis son retour. C'est ce que même des gens religieux viennent nous dire. Puis il n'a pas dit quand, puis il n'a pas dit comment, etc.
Comment?
Il n'a pas dit quand, il n'a pas dit comment. Il n'a pas dit le jour, c'est vrai.
Il n'a pas dit l'heure, mais il a parlé de l'époque de son retour. C'est pourquoi nous avons quand même dit donner au sujet du retour du Seigneur. Mais avant même de parler de l'époque de son retour, on voudrait savoir, mais comment est-ce que ça va se passer? Alors, on ne sort pas de la Bible, mais est-ce que ce soir, nous avons la certitude que le Seigneur reviendra? Oui. Parce que Jésus a dit, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Hein? Parce que c'est Jésus qui nous a dit, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi. Bon, si nous croyons en Dieu, nous croyons aussi en lui, donc il a dit, je reviendrai, et il nous a dit que sa volonté, c'était de nous avoir auprès de lui. Les anges qui ont témoigné le jour de l'ascension ont dit, il reviendra de la même manière. Alors, nous nous disons, mais où est-ce qu'il est encore parlé de ce retour? Comment ce retour aura-t-il lieu? Et on voudrait savoir... Il dit, je vous prendrai auprès de moi. Mais comment est-ce que ça se passe? Alors, on ne sait pas, c'est un homme qui pense comme ça. Moi, je pense rien du tout. Aucune valeur que je pense. Ce qui compte pour vous, c'est ce Dieu. Et c'est pourquoi ma joie, c'est de vous voir avec vos Bibles, comme quand je suis dans un milieu catholique, où j'essaye d'enseigner ces vérités qu'ils n'ont jamais entendues, de les voir avec leurs Bibles, parce que je peux leur dire qu'ils soient prêtres ou autres, c'est pas moi qui vous le dis. C'est la parole. Alors, chapitre 15, des Corinthiens, vous connaissez le grand thème, c'est la résurrection. Paul, qui autrefois était juif, mais qui a vraiment passé par la nouvelle naissance, mais qui n'a pas connu le Seigneur selon la chair, tout son évangile, il l'a reçu par des révélations qui sont venues directement du Seigneur. Il n'a pas appris son évangile de la part des apôtres qui ont connu le Seigneur sur la terre. Lui, il a eu des révélations directes du Seigneur. Mais les révélations qu'il a eues concordent avec l'enseignement que les autres apôtres ont donné. Mais à Paul, le Seigneur a révélé d'une façon plus particulière des vérités très profondes qui font notre bonheur. Chapitre 15, verset 5. Ou les chapitres verset 47. Il dit, le premier homme, c'est donc Adam, tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Et qui est le second homme? C'est Jésus. Mais tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Nous avons ici comme Adam. Ils sont des pécheurs, comme lui. Mais tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Qui est-ce qui est le céleste? C'est Jésus. Mais par la nouvelle naissance, vous devenez des célestes. Et vous pouvez être sûr qu'un jour vous serez tel qu'il est lui. C'est ce que nous allons voir. Verset 48. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, c'est ce que nous sommes maintenant, et nous portons l'image du terrestre. Nous sommes comme les hommes, comme les autres, comme Adam. Nous porterons aussi l'image du terrestre. Vous portez l'image du céleste. Alors, souvenez-vous bien de cela. Vous êtes appelés à porter l'image du céleste. Et ce ne sera pas un masque. C'est ce que nous serons. Nous ne serons pas sans masque. C'est ce que le Seigneur va faire. Mais alors comment ça va se faire, ça? Verset 50. Ce que j'ai dit, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Qu'est-ce que c'est la chair et le sang? C'est nous. Hein? On est fait de chair et de sang. Tant que la chair et le sang sont réunis, il y a la vie. Nous sommes vivants. Alors, la chair et le sang c'est donc les vivants. Mais on nous dit que la chair et le sang, des hommes tels que nous sommes, nous ne pouvons pas hériter du royaume de Dieu. On ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu avec notre corps de chair et de sang. Puis il est dit, et la corruption non plus n'hérite pas de l'incorruptibilité. Qu'est-ce que c'est la corruption? Oui, mais nous dans quel état? Mort. Ce sont nos morts. Quand nous mourons, nous savons très bien que nos corps retournent à la poussière. Alors, la chair et le sang, c'est les vivants. La corruption, c'est les morts. C'est pourquoi nous n'avons pas le culte des cimetières. Parce que nous savons que c'est de la corruption. Vous comprenez, on ne va pas déterrer nos cadavres. Parce qu'on ne trouverait que de la corruption. Et ça serait désespérant. C'est pas cela que nous regardons. C'est une dépouille qu'on a jetée. Mais eux n'y étaient plus. Eux, il faut les voir ailleurs que dans la fosse. Pourtant, ça, c'est épouvantable. Mais la foi qui connaît ces choses, c'est que l'esprit est retourné à Dieu qu'il avait donné. Le corps est retourné à la poussière, c'est vrai, mais l'esprit est retourné à Dieu qui l'avait donné. Et nous avons lu ce matin, nous sommes venus à l'esprit des justes consommés, eh bien, ce sont tous ces croyants qui sont désincarnés, il n'y a plus que l'esprit auprès du Seigneur, mais le corps est dans la poussière. Mais eux, ils sont près du Seigneur. Loin de cette prison qu'était leur corps. Ils sont libérés de cette prison du corps, mais ils sont déjà avec le Seigneur. Et on n'a pas assez loin de renseignements, mais Paul nous en dit assez pour qu'on puisse le croire. Être auprès du Christ, c'est de beaucoup. Alors on peut le croire. Hein. Et puis Jésus dit au brigand, en vérité, je te dis, aujourd'hui tu seras avec nous. C'était avec. Donc c'est une part négative. Et Paul, quand il dit, au fond, s'il avait pu choisir, lui, c'était d'aller auprès du Seigneur. Et il dit, si je dois vivre, il en vaut la peine. On a encore une tâche à faire, et alors il en vaut la peine. Alors, on a bien compris ça. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang, donc ce que nous sommes maintenant, ne peut pas hériter du royaume de Dieu. On ne peut pas entrer dans le ciel comme ça, avec le corps. Et puis, la corruption n'hérite pas d'incorruptibilité. Nos morts, ils vont pas entrer dans la gloire avec des corps de corruption. C'est pas possible. Alors, verset 51. Voici, je vous dis, un mystère. Et un mystère, il faut bien comprendre dans le Nouveau Testament, un mystère, c'est une vérité qui était cachée autrefois dans l'Ancien, mais qui a été révélée. Les mystères du Nouveau Testament, ce sont des vérités qui nous sont révélées. Je vous dis un mystère. On ne savait pas ça avant. Mais voilà, maintenant, je vous dis un secret. Quel est ce secret? Puisque la chair et le sang ne peut pas hériter du royaume de Dieu, que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas si nous croyons. Est-ce que pour aller au ciel, il faut vraiment absolument mourir? Nous ne mourrons pas. Alors, qu'est-ce qui se passera? Nous serons tous changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et qu'est-ce qui se passera à ce moment-là? Les morts en Christ. C'est-à-dire, ces corps de corruption ressusciteront incorruptibles, parce qu'ils auront un corps, nos bien-aimés. Alors, les morts qui sont la corruption ressuscitent dans un corps incorruptible. Vous voyez, corruption, incorruptible. Et puis nous, les vivants, chair et sang, nous serons changés. Pour nous, ce qui nous attend, c'est ce changement. Car il faut que ce corps corruptible, qui sont nos morts, revêtent l'incorruptibilité, et que ce corps mortel, c'est quel corps? C'est le nôtre. Hein. Tant qu'on est en vie, on est dans un corps mortel. Mais ce corps mortel ne peut pas être comme ça dans le ciel, il faut qu'il revêt l'immortalité. Alors, pour les morts, c'est revêtir l'incorruptibilité. Pour nous les vivants, c'est revêtir l'immortalité. Tout à coup, nous deviendrons des immortels. Mais alors, comment serons-nous quand nous serons immortels, sans avoir passé par la mort? Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. Vous voyez, ces choses doivent s'accomplir. La mort a été engloutie en victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Évidemment, tant qu'on est sous la loi, eh bien, on est sous la puissance du péché, parce que nous ne pouvons pas nous en tirer nous-mêmes. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus. Donc, vous pouvez méditer sur ce passage. Jean, chapitre 14. Je reviendrai. Jean, chapitre 17. Père, je veux qu'il soit auprès de moi. Comment ça se fait? Eh bien, voilà, les Corinthiens commencent de nous lire. Prenez maintenant dans Philippiens. Philippiens, chapitre 3. Philippiens, chapitre 3, verset 20. Nous sommes concitoyens des cieux. Et quand on pense au ciel, qu'est-ce que nous attendons? D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus. Il est déjà venu comme sauveur, hein, pour sauver nos âmes. Mais, à son retour, qu'est-ce qu'il va sauver? Nos corps, hein. Nous attendons le Seigneur Jésus comme sauveur. Il transformera le corps de notre humiliation. C'est notre corps mortel. C'est notre corps physique. C'est notre corps handicapé. C'est notre corps avec ses infirmités, avec ses maladies. Ce corps qui s'en va vers la mort. Eh bien, quand le Seigneur revient, il va transformer le corps de notre humiliation. Donc, il va transformer le corps des vivants, mais qui sont mortels. Et il rendra notre corps en un corps de gloire, en le rendant semblable au corps de sa gloire. Qu'est-ce que c'est le corps de sa gloire? C'est le corps de Jésus avant la croix? Non. Ça, c'était son corps d'humiliation. Il avait revêtu notre corps d'humiliation. Il avait faim, il avait soif, il était soumis à tous les besoins de la nature. Mais une fois ressuscité, c'est le corps de sa mort. C'est un corps qui n'est plus soumis aux lois de la matière. Les disciples dans la chambre haute étaient fermés, toutes portes fermées, tout d'un coup, Jésus est au milieu d'eux, et ils le voient, et ils peuvent le toucher. Donc il a un corps. Mais c'est un corps qui n'est plus soumis aux lois de la matière, il n'a pas besoin d'entrer par une porte, il est là. Mais nos corps, à nous aussi, ces corps qui nous attendent, c'est quelque chose de fantastique, quand on y pense. À moins que ce soit un rêve. Hein. Mais si on croit cela, si on croit la parole, ben c'est cela qui vous attend. Vous allez avoir instantanément un corps de gloire. Nous attendons Jésus, qui va transformer nos corps en un corps semblable à son corps de gloire. Par quel pouvoir? Le pouvoir qu'il a de s'assujettir du Dieu. Et vous voyez que sur la montagne de Galilée, ressuscité, dans les 40 jours où il s'est encore manifesté aux disciples, il leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et le jour de la Pentecôte, il a commencé d'abord en envoyant le Saint-Esprit. Mais il nous dit maintenant que ce qui va arriver, à cause de ce pouvoir qu'il a traduit sur cette chose, ce qui nous attend, c'est cette transformation de nos propres corps en des corps de gloire. Alors, nous voudrions encore quelques éclaircissements. Alors, on les a dans cette fameuse épître aux Thessaloniciens, chapitre 4. Alors, si vous gardez bien en mémoire, parce que pour moi, je me souviens, j'étais encore très jeune, quand j'ai saisi ces vérités d'un vieux frère qui nous en faisait l'exposition, et ça m'est toujours resté. Il était passé de ce chapitre 14. Dedans. Jésus a promis qu'il reviendra. Je vais vous préparer une place. Puis ensuite, il avait pris ce chapitre 17. Et voyez-vous, ça m'est toujours resté. Père, je veux. Pour nous bien nous montrer que c'était la volonté de Jésus qui a tout pouvoir auprès du Père. Qu'il veut, c'est nous avoir avec lui. Ensuite, les deux disciples, le jour de l'ascension, qui disent, ne regardez pas seulement vers le ciel. Ce Jésus, vous avez vu son allant au ciel, il reviendra de la même manière. Puis ensuite, alors, si on veut savoir, mais comment est-ce que ça va se passer, 1 Corinthiens, chapitre 15. À cause de cette vérité que la chair est sans se centrer dans le royaume de Dieu, à cause de cette vérité que la corruption nous mort n'est pas dans le royaume de Dieu, eh bien, il faut que cette grande opération. Et puis, alors, comment est-ce que nous attendons maintenant d'un Philippien? Nous attendons Jésus du ciel comme sauveur. Il a déjà sauvé nos âmes, mais il va sauver nos corps. Hein. C'est un salut total, un salut complet. Et alors maintenant, sur les détails que nous voudrions avoir, vous avez ça dans le chapitre 4. De la première aux Thessaloniciens, verset 13. Et ça, c'est des choses qui peuvent vous rester. Parce que, vous voyez, des fois, pendant longtemps, on est un peu embrouillé quand on pense au retour du Seigneur. Puis tout d'un coup, on a comme un schéma qui nous reste, sur lequel on médite, et qui nous donne les grands jalons, et une base. Hein, et vous n'en sortez plus de ça. Chapitre 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Bien, vous voyez, nous sommes assez libres pour nous rappeler ensemble, sans retourner un petit peu dans l'appel, que Françoise et Josaphat sont dans ces anniversaires du deuil, de la séparation de leurs deux enfants bien-aimés, dont les gens étaient... au camp ici, une de ces jeunes filles qui a tant travaillé avec beaucoup de joie parmi nous. Mais elle a encore plus de joie dans le temps céleste en attendant ces moments. Alors, on se dit bien, comme demain c'est l'anniversaire de leur enterrement, ben, voilà, il y a deux personnes qui sont devant nous, que nous avons connues, elles sont décédées. Et on n'a pas de nouvelles? Hein? Non mais, je m'excuse de parler comme ça. Où allons-nous avoir des nouvelles d'eux? Hein? Ça va pas. Comment? Au ciel, oui. Mais les nouvelles sont du ciel. C'est les nouvelles célestes. Et c'est ça que c'est vraiment fantastique. Et c'est ça qui doit nous différencier. L'apôtre dit, je ne veux pas que vous pleuriez comme ceux qui sont sans espérance. C'est qu'ils ont mis. Ils ont une pierre. À quelque part, toutes les pleurs qu'on y met, hein. Ben oui, ils ont une pierre. C'est ça? Vous bien aimé en plus. C'est fantastique, c'est. Nous ne voulons pas faire que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, donc. Ah. Ils sont encore vivants. Et c'est tellement vrai qu'ils sont encore vivants que Jésus a dit que Dieu était le Dieu de qui? D'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Il ajoute, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Tous sont vivants. Pour lui, il n'y a pas de mort. Tous sont vivants. Alors, ayons un peu les pensées de Dieu dans notre cœur, soyons habités par ça, et nous serons encouragés.
Et vous voyez la pensée de Dieu, c'est très fort ces paroles. Et vous, c'était à Grenby que j'étais dans une grande église catholique un jour, et ils étaient peut-être 200, ils avaient tous leur Bible, et j'ai essayé devant du curé aussi de faire comprendre à cette église que c'était vrai. Vous avez jamais entendu ça? Alors on a dit, nous ne voulons pas, parce que tous avaient des parents, des enfants, peut-être qui étaient morts, des décédés, et qui sont morts dans la foi, mais s'ils sont morts dans la foi, nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort, alors je m'arrête là, si je dis à tous ces gens, est-ce que vous croyez que Jésus est mort? Et nous, est-ce que nous croyons? Et même dans une église catholique, j'ai vu qu'on dit, ils croient que Jésus est mort. Il y a des croix partout. Il y a des crucifix. Hein? Alors, on arrive à leur faire admettre, là. Si nous croyons que Jésus est mort, bon, ils sont d'accord. Et qu'il est ressuscité. Est-ce que vous croyez qu'il est ressuscité? Il y en a qui le nient, hein. Il y a un professeur d'université catholique à Lyon qui a dit qu'il préjugeait que les archéologues retrouvent les os de Jésus. Vous vous rendez compte? Donc il ne croit pas à la résurrection. Et on est professeur d'université dans l'église catholique. Peu importe quelle église. Alors, allons bientôt terminer. Si nous croyons que Jésus est ressuscité, vous croyez que Jésus est ressuscité? Oui. Alors qu'est-ce qu'il faut croire aussi? Croyons aussi. Hein? Alors c'est clair, hein? Ça devient clair, on complique tout. Croyons aussi, c'est une vérité aussi importante que pas, que vendredi saint, que pas. Cette pensée du retour du Seigneur, c'est une vérité capitale. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, quand Jésus reviendra, il ramènera avec lui ceux qui sont décédés. Mais, en guillemets, comment alors? Tout d'un coup, on va les voir, Jésus va les ramener, mais attention. On va aller plus loin. Mais en tout cas, on sait qu'ils ne seront pas oubliés. Mais on veut des détails. Verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après les rêveries. C'est ça? D'après les idées de Paul? Non. Hein? Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, donc il y aura des vivants au retour du Seigneur, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Le premier acte de la venue du Seigneur, ce sera de ressusciter d'abord les morts. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est ce qui est appelé à dire la première résurrection, parce qu'il y a une autre résurrection, la résurrection des incrédules, mais elle n'a pas lieu en même temps. Il y a d'abord une résurrection sélective. Ceux qui sont morts dans la foi ressuscitent premièrement. Ensuite, nous les vivants, c'est donc nous qui serons vivants à la venue du Seigneur. Peut-être que je ne serai pas, mais vous y serez peut-être. Mais s'il revenait ce soir, nous serions ces vivants. Nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevé avec qui? Qui c'est eux? Avec eux. les morts en Christ ressuscités. Donc, il y a d'abord les morts en Christ qui sont ressuscités, puis nous qui sommes changés en un instant, cette dépouille est transformée et nous avons un corps de gloire, un corps céleste, et avec les vivants, sans la navette spatiale, avec les ressuscités, nous sommes enlevés par une puissance d'attraction céleste, nous sommes enlevés où? Sur les nuées du ciel, comme Jésus est parti dans les nuées, nous sommes enlevés sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous flotterons toujours dans l'espace. Non, la vraie tradition, nous serons toujours avec le Seigneur. Et où? Dans les airs? Non, c'est là qu'il faut rapprocher, chapitre 14. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je vais vous préparer. Et si je m'en vais, je reviendrai et vous prendrai auprès de vous. Donc, une fois que le Seigneur est venu donc sur les nuées, il vient sur les nuées du ciel, il n'est pas dit qu'il revient là sur la terre. C'est pas encore son retour en gloire. C'est d'abord l'enlèvement, il enlève les morts en Christ, qui sont ressuscités, nous les vivants transformés, nous allons à la rencontre du Seigneur dans les airs, et les portes des demeures célestes, et il nous fait entrer dans la gloire de son Père. Et c'est seulement après qu'il revient avec les siens. Comprenez-vous? Dans le retour du Seigneur, il y a deux phases. La première, c'est l'enlèvement des croyants, morts en Christ et vivants, qui sont transformés, et on entre dans le ciel, puis ensuite, il y a le retour glorieux du Seigneur, le deuxième acte, il revient avec les siens, et alors il revient sur la terre. Mais il ne revient pas seul, il revient avec les morts en Christ ressuscités. Et nous les vivants glorifiés. Et c'est cela qui est le sujet de notre espérance. Alors, ce que nous comprenons, verset 18, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. C'est que le premier événement que nous avons à attendre, nous les chrétiens, c'est cette venue du Seigneur pour les siens. Il revient d'abord pour les siens, pour pouvoir revenir ensuite pour le monde, avec les siens. Parce que le Seigneur ne se montrera pas au monde sans les siens. C'est ça qui est différent. Jésus n'apparaîtra pas dans ce monde tout seul, comme il est venu la première fois, seul. Jésus apparaît au monde avec son Église, qui est son corps. Et pour la première fois, le monde verra ce que c'est une Église. La tête, Jésus, et son corps. Tête et corps réunis. Jésus ne se manifestera au monde qu'avec les siens. C'est ce que nous lisons dans le chapitre 2 de la, premier, de la deuxième épître aux Thessaloniciens. Quand le Seigneur revient avec les siens, alors le monde admire le Seigneur en tous ceux qui auront cru. Il sera rendu admirable en tous ceux qui auront cru. Alors notre bienheureuse espérance, c'est cela, comme on le voit dans l'épitratie, et c'est avec ce passage que nous allons terminer. On a fait qu'effleurer quelques grandes vérités, mais en ce jour de Pentecôte, je désirais que nous puissions savoir quel est le grand événement qu'on attend maintenant, selon les mots que nous croyons. Mais pour le monde, qu'est-ce qui va arriver? C'est son retour en gloire, Jésus avec les siens, mais ça a lieu plus tard. Chapitre 2 de l'Épitratie. Verset 11.
La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Ça, c'est la première venue de Jésus. Et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance. L'enlèvement de l'Église, c'est la bienheureuse espérance. C'est une espérance qui nous remplit de joie. Et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu Sauveur Jésus-Christ, ça c'est la seconde partie de son retour. Parce que quand il revient pour les siens, il revient sur les nuées du ciel. Il vient à notre rencontre. Mais quand il revient avec les siens, alors il vient sur la terre. Et tout le monde le voit. C'est ce que vous avez dans Apocalypse, au sujet de son retour glorieux. Il est dit, au chapitre 1er, verset 7, voici, il vient, avec les nuées, et tout œil le verra, et même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Quand il revient avec les siens, tout œil le verra. Mais quand il revient pour les siens, c'est seulement les siens qui le verront. Alors, si nous voulons nous intéresser à ces vérités, à ce qui nous attend, eh bien, sondons les Écritures et soyons prêts pour sa venue. Nous ne savons ni le jour ni l'heure, mais le Seigneur nous a dit l'époque de son retour même en gloire. Quand il reviendra, il en sera comme au jour de Noé. La corruption et la violence seront sur la terre. Alors on se dit, mais qu'est-ce que nous voyons autour de nous? La corruption et la violence, on est comme au temps de Noé. Donc, les signes de son retour en gloire sont proches. Mais si nous commençons de voir les signes de son retour en gloire, de ce moment où Dieu devra intervenir dans le monde, par le retour de son Fils, qui vient pour juger, il est venu une première fois pour sauver, mais il revient pour juger, si nous voyons, au fond, les premières manifestations du jugement de Dieu qui doit bientôt se manifester. Qu'est-ce qu'on fait?